Segmenter son marché B2B pour mieux vendre? Cela peut sembler contre-intuitif et pourtant c'est la base d'une stratégie commerciale réussie. Pour cela, il faut maîtriser les critères de segmentation de marché et vendre à moins de personnes pour vendre plus et mieux. Pour bien comprendre les raisons pour lesquelles cet effort de segmentation est si important et les méthodes pour y arriver, j'ai interviewé Yves Blandiot de Wave for Growth qui a récemment participé au livre blanc Modern Selling afin d'aborder aujourd'hui le sujet de la segmentation de son marché B2B, identifier les critères pour bien segmenter et pour établir le profil du client idéal, ICP, Ideal Customer Profile.
Vous écoutez bien les podcasts de Sparklane sur le blog Sales and Marketing Insiders, le blog d'information sur la vente en B2B.
Bonjour, je suis Yann Gourmenec. Le sujet du jour, critères pour bien segmenter son marché B2B et établir le profil du client idéal pour mieux vendre avec Yves Blandiot. Beaucoup d'entrepreneurs construisent des couteaux suisses, des produits ou des offres qui font tout pour tout le monde et s'adressent à tous les marchés possibles et imaginables. La logique est simple. Voilà ce qu'ils se disent. Comme je ne sais pas à l'avance qui va prendre mon produit, je vais couvrir tous les cas d'usage pour être sûr de n'en avoir oublié aucun. Hélas, c'est une bien mauvaise idée, car essayer de vendre à tout le monde, c'est s'assurer que l'on ne vend à personne. J'ai connu cela avec la messagerie unifiée, un bidule technologique merveilleux qui permettait d'envoyer et recevoir n'importe quel type de message sur n'importe quel canal pour faire tout et n'importe quoi. Personne n'a jamais acheté la messagerie unifiée. Et pourtant, chacun d'entre vous en utilise un petit bout, un cas d'usage particulier. Ainsi, rentrer chez de nouveaux clients au travers de cas d'usage bien spécifiques, avec en lieu et place du couteau suisse un couteau à une seule lame bien déterminée, permettra de faire mouche et d'engranger de nouvelles conquêtes. Voyons, avec Yves Blandiot, les bonnes et mauvaises pratiques en matière de segmentation et de présentation des cas d'usage.
Eh bien, je suis avec Yves Blandiot en direct de Belgique. Bonjour Yves, on ne te présente plus puisque tu as participé, comme tout le monde le sait, au livre blanc Modern Selling que nous avons sorti avec Sparklane l'année dernière. Et aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet qui est la segmentation du marché. Et on va voir quels sont les critères pour bien segmenter, pour établir ce qu'on appelle un ICP. On verra ce que c'est un ICP, hein, je ne vais pas dévoiler tout de suite. Mais d'abord, avant toute chose, j'aimerais comprendre pourquoi il faut segmenter son marché. Moi, j'aurais pensé que c'était bien de vendre tout à tout le monde.
Ben, bonjour Yann d'abord, hein, merci de m'avoir sur le programme à nouveau. Ben, pourquoi segmenter? Oui, c'est vrai que beaucoup d'entrepreneurs, ils ont envie de vendre leur bébé finalement à tout qui passe autour d'eux. Mais l'importance de la segmentation, c'est effectivement de passer d'une logique produit vers une logique marché. Et finalement, ce que l'entreprise a construit, que ce soit une solution, un produit, un service, peu importe finalement ce qu'elle vend, ça va être consommé par le marché de façon différente selon le client. C'est-à-dire qu'il y aura toute une série de cas d'usage de ce que l'entreprise a construit, et il est vraiment important de pouvoir parler à différents segments de marché, chaque segment correspondant à un cas d'usage que l'on pense intéressant pour ce que l'on a à vendre.
Donc c'est presque contre-intuitif, il faut vendre à moins de personnes pour vendre plus.
Ah oui, tout à fait. Bah, d'ailleurs, si on explique on vend une plateforme software de bout en bout qui fait tout, et quand on entend le patron des ventes ou le patron de la boîte vous dire Non, moi je peux tout faire, moi j'ai tout prévu dans mon software, dans ma plateforme, eh bien on sait que si c'est ça son message commercial, on pressent qu'il ne va pas vendre beaucoup, parce que ce sera confus et ça ne parlera finalement à personne.
Tu as peut-être une petite anecdote à nous livrer là sur un couteau suisse, même si tu es en Belgique.
Un couteau suisse, ben oui, il y a beaucoup d'entrepreneurs finalement construisent des couteaux suisses. Et finalement, lorsqu'on veut signer de nouveaux clients, c'est très difficile de signer un nouveau client avec un couteau suisse. Par contre, identifier la lame qui va faire mouche et qui va nous permettre de conquérir ce nouveau client, ça, c'est autre chose. Et donc là, c'est finalement dégrader le couteau suisse que l'on a construit et mettre en avant uniquement une des fonctionnalités, un cas d'usage de ce couteau suisse vers un nouveau client qu'on va devoir d'abord convaincre. Et le convaincre de prendre toutes les lames d'un coup, c'est souvent un peu compliqué. Oui. Par contre, rentrer chez ce nouveau client au travers d'un cas d'usage bien spécifique avec une lame déterminée qui est plutôt un couteau suisse, mais c'est l'Opinel pour peler ma pomme, ah ben là, ça va peut-être parler à un certain nombre de personnes et on va pouvoir conquérir de nouveaux clients comme ça.
Et avant de conquérir, de convaincre le client final, il faut convaincre l'entrepreneur en général qui rechigne, hein, c'est souvent le cas, à enlever des lames à son couteau suisse, parce que là, lui, il pense qu'en plus il met de lames à son couteau suisse, et plus il a de chances de vendre. Et en fait, c'est complètement faux.
Voilà, exactement. Et donc, c'est ça qui, tu as raison, il va falloir arracher le cœur de cet entrepreneur, lui faire violence pour lui dire qu'effectivement, s'il veut un jour valoriser sa solution et aller en extraire la valeur du marché, eh bien, il va devoir le faire de façon progressive et ciblée par rapport à des cas d'usage clients et donc par rapport à des segments différents. Donc, une anecdote assez bête et méchante, je dirais, quand il y a 10-15 ans, jeune cadre dynamique, je vois que sur ma liste de voitures, je peux aller acheter une Mercedes classe E, tu sais, c'est grosse berline. Oui. Hein, je suis un peu, d'abord un peu fier, hein, je vais pousser la porte de la concession Mercedes. Et j'ai un vendeur qui me tombe dessus, qui me dit « qu'est-ce que vous voulez, monsieur ?» Moi, je regarde les classes E et il me fait l'éloge de la classe E en me disant que ces voitures, elles avaient roulé 500 000 km sans problème. Et il me vend la longévité de ces voitures et leur fiabilité dans le temps. Alors que moi, je rentrais pour un contrat de leasing de 3-4 ans, au maximum 120 000 km. Donc, visiblement, il est en train de me vendre le cas d'usage du taximan. Alors, je ressemble peut-être à un chauffeur de taxi. J'ai beaucoup de respect pour le chauffeur de taxi. Mais il me vendait le cas d'usage du chauffeur de taxi. Alors que moi, j'étais dans un autre cas d'usage. J'étais le cas d'usage du jeune cadre dynamique, entre guillemets, qui venait choisir son véhicule de fonction et le leasing qui allait avec.
Ok, donc on a bien compris l'anecdote servant à illustrer ton propos. Il faut donc segmenter, mais alors qu'est-ce que ça veut dire justement segmenter ?
Segmenter, c'est comprendre comment ce que l'on a construit, le produit, la solution qu'on a construite, comment elle va être consommée par le marché finalement. Et donc essayer de trouver ces fameux cas d'usage qui nous apparaissent comme étant prioritaires sur lesquels on va proactivement démarcher les clients. Donc c'est ça segmenter, c'est trouver les critères qui vont nous permettre de trier les clients pour les regrouper en cas d'usage. Et non pas essayer de les regrouper en fonctionnalités de produits, parce que là, on aurait toujours une vue très, très, très auto-centrée et très centrée autour de son produit et de ce que l'on a construit. Non, c'est vraiment un tri des clients potentiels par rapport à leur cas d'usage. Donc, de nouveau, le chauffeur de taxi n'a pas le même cas d'usage que le jeune cadre dynamique qui vient chercher un leasing pour une voiture de fonction.
Alors, pour segmenter, il faut être capable de définir son ICP. On en a parlé tout à l'heure dans l'introduction, mais qu'est-ce qu'un ICP et comment on fait ?
L'ICP, c'est fait partie de ce que j'aime bien appeler le triptyque des intentions commerciales. Parce que pour vendre et pour aller signer de nouveaux clients, il faut d'abord des intentions. Ensuite, lorsque les intentions sont bien définies, on va pouvoir réfléchir à l'exécution. Mais ce sont finalement les deux axes qu'il faut pouvoir travailler, les intentions, les exécutions. Pour ce qui concerne les intentions, il y a ce fameux triptyque qui permet de mettre en relation finalement, d'une part, ce que l'on va vendre, c'est-à-dire quelle est la lame du couteau suisse que l'on veut mettre en avant, et donc le cas d'usage qui nous intéresse, et on va mettre ça en rapport avec le client idéal qui va consommer cette lame, qui va consommer ce cas d'usage ou qui va utiliser ce cas d'usage. Et donc le triptyque, c'est effectivement ce client idéal pour lequel il sera très facile de commander ce cas d'usage que l'on a mis en avant, pour lequel il sera très facile de basculer et de passer commande. Donc, c'est, vraisemblablement, c'est également un client idéal qui sera peut-être dans le cadre d'une vente innovante, d'une solution innovante, qui sera peut-être le early adopter, désolé de l'anglais, hein, de la solution précoce, innovante. Ouais. Hein, donc l'adopteur précoce. Donc, c'est effectivement d'essayer de comprendre quelle est cette personne, cette entreprise, plutôt ce type d'entreprise, qui va avoir tendance à acheter facilement le cas d'usage que je vais mettre en valeur. Et donc, le triptyque, c'est non seulement ce que l'on veut vendre, donc c'est le cas d'usage, à qui on veut le vendre, c'est le client idéal, et le troisième élément du triptyque, c'est via qui on va le vendre, c'est-à-dire quels sont les personas que l'on va mobiliser au sein de ce client idéal pour faire mouche et pour que finalement, effectivement, les forces vives se mobilisent pour passer commande.
Juste une petite chose pour nos auditeurs, après tout, il y en a certainement qui ne le savent pas, ICP, on n'a pas défini ICP, c'est Ideal Customer Profile en anglais, c'est-à-dire le profil du client idéal, ce qui fait partie de ce triptyque que tu viens de décrire. Alors, comment fait-on pour bâtir ce triptyque? C'est peut-être pas aussi simple qu'on croit, hein. Ça a l'air simple comme ça sur le papier, mais...
Oui, ben, effectivement, c'est un exercice important, hein, parce que quand les intentions ne sont pas claires, de nouveau, je me répète peut-être, le business ne viendra pas facilement. Donc, croire qu'il suffit d'avoir une force d'exécution commerciale pour réussir à signer vos clients est une illusion. L'exécution est importante, mais avant l'exécution, il faut avoir les intentions bien clarifiées. Et donc, pour construire ce triptyque, on peut rentrer par deux portes. Hein, la première porte, on peut rentrer par la porte de « tiens, qu'est-ce que l'on a envie de vendre ? Qu'est-ce que l'on pense que l'on peut vendre ?» Et donc, ce n'est pas de prendre le couteau suisse, mais de choisir la lame. Hein, c'est de voir quel est le cas d'usage que l'on veut mettre en avant pour rentrer chez de nouveaux clients. Et donc ça, c'est la première porte d'entrée et on va réfléchir effectivement à quelle est cette insertion chirurgicale que l'on pourra imaginer, donc quelle est la lame que l'on va mettre en avant. Cette lame, idéalement, doit être un premier domino qui va en entraîner d'autres ensuite, lorsqu'on aura positionné ce premier domino. Donc, ce cas d'usage chirurgical ciblé est vraiment important, c'est la première porte. Ensuite, une fois qu'on a travaillé là-dessus, on doit se poser la question de savoir, quel est le client idéal pour ce que l'on veut vendre, c'est-à-dire ce cas d'usage focalisé. Et là, donc ce que j'essaie de dire, là, simplement, un client idéal sans avoir en vue un cas d'usage ciblé n'existe pas. Hein, le client idéal n'existera que pour un cas d'usage particulier. Alors, ce client idéal, on va le définir, les critères traditionnels, on va parler de la taille d'entreprise, le secteur d'activité d'entreprise, peut-être la géographie de l'entreprise. Ce sont des critères finalement assez classiques. Ce qui est important, ce qui va vraiment nous intéresser, ce sont des critères un peu moins classiques. Par exemple, on va réfléchir à la maturité de notre solution. Donc cette lame que l'on prend et qu'on met en avant, hein, ce cas d'usage particulier, quelle est la maturité de cette solution chez nous? Parce que si la maturité n'est pas très bonne et qu'on est toujours un peu en avance de phase sur la courbe de l'innovation, hein, si tu vois ce que je veux dire, notre ICP, il va devoir être également un utilisateur précoce. On ne va pas savoir vendre une technologie nouvelle à un utilisateur qui va nous poser des questions du type comment maintenez-vous votre solution, quel service allez-vous m'offrir pour que je puisse le déployer facilement, etc., etc. Ça, ce sont des considérations de quelqu'un qui veut acheter une solution qui est déjà beaucoup plus mûre. Hein? Donc la première composante, c'est vraiment de choisir, de voir l'ICP et sa capacité à adopter de l'innovation par rapport à où se trouve notre lame du couteau suisse sur la maturité de développement et finalement, est-ce qu'on est toujours dans l'innovation ou est-ce qu'on est déjà avec un produit plutôt mûr? Ça, c'est une première considération qui est importante. Peut-être une deuxième considération, c'est la maturité du client sur le domaine dans lequel, sur lequel on va l'engager. Imaginons que vous vendez une solution de transformation digitale, quelle qu'elle soit. Il va falloir se poser la question de savoir, pour ce cas d'usage de transformation digitale qu'on a imaginé dans ce triptyque, est-ce qu'il vaut mieux parler à des clients qui n'ont jamais encore fait de transformation digitale et qui sont toujours avec leur papier et leur crayon, ou est-ce qu'il faut parler à des clients qui ont compris qu'il y avait un intérêt à faire une transformation digitale mais ne l'ont pas encore fait, ou faut-il parler à des clients, par exemple, qui l'ont déjà fait mais qui se sont pris le mur? Et donc, il y a vraiment une réflexion importante à savoir, quels sont les types de clients qu'on veut attraper, quelle est leur maturité, en l'occurrence sur cet exemple-ci, sur la transformation digitale.
Et là, pour ça, les signaux d'affaires, ce qu'on appelle en anglais « leading indicators », seront cruciaux, parce que c'est ça qui va nous permettre de savoir que telle entreprise, justement, s'est pris une gamelle en faisant sa transformation digitale.
Exactement. Et donc, ces leading indicators, effectivement, c'est absolument fondamental pour construire son ICP. On va, par exemple, dans ma vie de commercial, j'ai souvent dû réfléchir à ces leading indicators. Et par exemple, un des leading indicators que l'on peut souvent utiliser pour définir son ICP, c'est la situation concurrentielle chez le client que l'on cible ou le type de client que l'on cible. Par exemple, on peut très bien se retrouver à dire « Ah, si le concurrent X est présent, je m'enfuis. Je n'y vais même pas. Je n'y pense même pas. » Par contre, si le concurrent Y est en place chez ce client, je sais que là, je sais le dépositionner, si tu veux. Donc, souvent, ça, c'est un leading indicator fort. C'est de savoir quel est l'environnement concurrentiel. Et il y a souvent des concurrents auxquels on ne va pas se frotter, dans certaines circonstances, et d'autres, par contre, où on sait qu'on doit y aller. Par exemple, dans ma vie de commercial de nouveau, j'ai par exemple su, tel fournisseur arrête telle ligne de produit. Eh bien, il est évidemment intéressant de se dire, peut-être qu'un de mes ICP pour les 6 mois qui viennent, c'est effectivement d'identifier tous les clients de ce fournisseur qui ont pris ce type de solution chez ce fournisseur, solution qui ne sera plus supportée à l'avenir. Donc, l'environnement concurrentiel, par exemple, est un leading indicator qui est assez puissant également à utiliser quand on construit son ICP.
Bien. Et alors, donc, cet ICP, il a une caractéristique, il répond à certains cas d'usage. Pour ces cas d'usage, on utilise ces signaux d'affaires qui sont importants. Et puis, à la fin, il faut être capable de leur raconter une histoire qui correspond à leur problème aussi. Donc, c'est exact. Le discours qui fait mouche.
Exactement. Et le discours qui fait mouche, on va essayer de le préempter aussi dans la définition de son ICP, parce qu'on va voir que tout le monde n'est pas égal face à la problématique que notre cas d'usage que notre solution va résoudre. Donc souvent, on se retrouve peut-être avec différents types de clients, différentes typologies de clients qui pourraient être l'ICP, et puis on va les prioriser et on va se dire, finalement, parmi ces différents types de clients, quels sont ceux pour lesquels la douleur est la plus insupportable. Et donc, on préempte le fait que là où il y a une douleur importante, on aura une histoire qui pourra davantage faire mouche. Donc la douleur, l'intensité de la douleur, mais aussi peut-être la facilité à adopter le changement que vous allez lui proposer. Donc, on va se rendre compte assez rapidement, que un type de client va freiner des cas de fer parce qu'il ne sera pas prêt à adopter l'innovation peut-être que je propose, alors qu'un autre client, au contraire, va vouloir sauter dessus assez rapidement. Et plus on travaille sur le sujet, plus on se rend compte que finalement, la vente, on la gagne souvent lorsqu'on définit ses intentions et lorsqu'on définit cet ICP pour la lame du couteau suisse que l'on veut positionner ou le cas d'usage que l'on a en vue.
Ok. Bon, on comprend un peu mieux pourquoi il faut segmenter. On a cette méthode que tu suggères, le triptyque, qui est crucial. On sait ce que c'est un ICP. Fantastique. Il manque plus qu'un quelques anecdotes croustillantes que tu puisses nous partager, bien sûr, sans citer de nom,
ah oui.
et qui vont nous expliquer comment tu as pu retourner certains clients qui vendaient des couteaux suisses pour qu'ils aillent vendre des couteaux belges plutôt.
Oui, peut-être. Non, mais peut-être, si on reprend un peu des anecdotes, on se positionne un peu sur tout le process de cette chaîne, hein, sur le long de l'enchaînement d'idées que l'on a discuté ici. Mais souvent, quand je pense à un client, il a développé une méthodologie, une technologie qu'il a envie de vendre. Et c'était une technologie de traitement de verre industriel. Hein. Et pour cette technologie, finalement, le client essayait de vendre la technologie et n'y arrivait pas. Alors ensuite, la première étape, on s'est dit, attendez, quels sont les cas d'usage de cette technologie? Et quand on a fait l'exercice avec le client, on a trouvé 34 cas d'usage. C'est-à-dire 34 segments possibles qui pourraient être intéressants et que cette technologie, pour laquelle cette technologie pourrait être intéressante. Et évidemment, quand on voit 34 cas d'usage et que l'on sait que pour vendre, il va falloir parler aux cas d'usage, on se rend compte évidemment de l'immensité de la tâche. Hein, on va devoir construire des contenus pour 34 cas d'usage, on va devoir démarcher spécifiquement 34 types de clients, très vite on voit que c'est impossible. Donc ça c'est une anecdote intéressante, c'est que souvent, lorsqu'on retourne la chaussette, comme j'aime bien le dire, et qu'on ne pense plus à son produit, mais qu'on pense plutôt au cas d'usage, on découvre l'immensité du travail à réaliser. Et donc, très vite, on se dit, il va falloir prioriser. Et donc, prioriser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les 34, on va devoir en choisir 3 ou 4 que l'on va sérieusement apporter proactivement vers le marché et qu'on va promouvoir proactivement sur le marché. Donc ça, c'est sûrement une anecdote qui m'avait bien marqué parce qu'une fois qu'on a fait ce travail de cas d'usage, ensuite vient l'ICP, le client idéal, et quand on a fait ça et qu'on complète le triptyque avec le troisième élément qui est le persona, donc qui veut-on engager chez ces ICP pour faire basculer les choses, on se rend compte qu'on commence à vendre.
Et c'est, donc ça a été un succès?
Et ça a été un succès, bien sûr. C'est à un moment, maintenant les 4 cas d'usage qu'on avait choisis n'ont pas tous abouti, mais on en prend 4 parce qu'on en veut au moins 2 qui marchent du feu de Dieu, quoi.
Et ça, c'est un chiffre magique, ça, 4 ou...
Moi, j'essaye d'être en dessous de 5, en tout cas.
D'accord.
Ou 5 grands maximum, selon les cas de figure.
Ouais. Donc, c'est 5 cas d'usage maximum. Et sur ces 5 cas d'usage, on sait que tous ne vont pas marcher, qu'il y en aura peut-être un ou deux, ou peut-être 3, si on a de la chance, qui vont fonctionner.
Oui. Voilà. Mais surtout, ça donne un sens de l'action, parce que dès le moment où on regarde les choses sous cet angle-là, on se rend compte, jusqu'à présent, on a simplement développé des fiches produits, hein, puisqu'on réfléchissait à son produit, à sa solution, des fiches produits, des fiches solutions. Dès le moment où on commence à retourner la chaussette et on pense cas d'usage, qu'on en découvre 34 et puis qu'on en prend que 4, on se rend compte de l'ampleur du travail pour 4 cas d'usage, l'ampleur du travail pour créer le contenu qui va bien, pour réfléchir aux histoires qui vont bien se raconter pour ces cas d'usage, pour faire des démonstrateurs qui seront customisés ou qui seront sur mesure développés pour ce cas d'usage, etc. etc. Et au plus on se focalise finalement, au plus on se rend compte du travail à faire ou du travail qu'il reste à faire.
On pourrait presque dire que c'est presque une entreprise de transformation, ça, parce que au début, ton fabricant de verre, il passe d'un simple industriel qui fabrique du verre, on ne sait pas trop pourquoi, à le spécialiste de la fabrication du verre ou des sous-bocs en verre pour la bière, par exemple. J'en sais rien, je dis n'importe quoi. Mais il devient le responsable, l'expert d'une niche verticale très précise. Et finalement, ça change sa raison d'être, en fait, d'une certaine manière.
C'est-à-dire que je pense que et c'était un cadre d'une innovation, hein, c'était pas simplement un fabricant de verre, c'était une technologie assez spécifique pour processer du verre, mais ça vaut pour tout, hein. C'est qu'il faut renoncer mais à vendre tout ce que l'on a. Il faut commencer par renoncer avant tout ce que l'on a, et il faut avoir une conviction sur comment le marché va se dérouler et par où on va commencer. Et donc, effectivement, ça passe par une approche plus de niche dès le moment où la problématique est de signer de nouveaux clients. Moi, j'ai rarement vu un client qui rencontrait une start-up, qui avait, par exemple, développé une plateforme de collaboration bout en bout. J'ai rarement vu un client qui prenait la plateforme de collaboration et qui me disait « bah oui, je vais la déployer dans le monde, là, ça me plaît bien, on y va ». Non. Et donc, il faut effectivement réduire. Et au plus on réduit son focus, ça ne veut pas dire qu'on renonce à tout jamais, je dirais. Non, on renonce à toute une série de choses dans un premier temps.
Effectivement, ça, ce que tu nous racontes évoque des souvenirs pour moi qui ai travaillé dans ce qu'on appelle la messagerie unifiée. Je n'ai jamais trop compris ce que ça voulait dire. Enfin, le problème, c'est qu'aucun client n'a jamais compris ce que ça voulait dire non plus. Et en fait, en gros, c'est qu'on pouvait envoyer des messages et recevoir des messages de n'importe où, vers n'importe où, n'importe comment, dans tous les cas et en tout temps. Donc, super. Donc, en fait, on ne sait pas à quoi ça sert.
Non.
Du jour où on a transformé ça en un système qui permettait d'envoyer des fax, puis après de les recevoir, puis après de faire les deux en même temps, pourquoi pas, parce que celui qui avait envoyé avait envie de le recevoir, et vice-versa, bah, finalement, on a réussi à résoudre ce problème et on a mis la communication unifiée sur l'étagère. Hein. On l'a laissé dans les blogs parce que ça faisait vachement bien. Mais finalement, c'est un concept qui ne servait strictement à rien pour vendre, en tout cas, hein, c'est sûr. Bon, alors, on comprend, il y a un travail énorme à faire en termes de segmentation. On a compris que pour vendre plus, eh ben, il faut vendre moins de choses et à moins de personnes. C'est beaucoup, être beaucoup plus pointu et que c'était une entreprise de transformation. Alors, est-ce que dans les entreprises technologiques, on va prendre que ça, dans le B2B, il y a beaucoup, beaucoup de secteurs, mais si on prend le secteur technologique que tu connais particulièrement bien, est-ce qu'on a une majorité de vendeurs de couteaux suisses ou est-ce qu'on a une majorité de vendeurs de couteaux belges?
Écoute, si tu prends des sociétés qui ont une certaine taille, en général, ces sociétés sont dirigées par des ingénieurs. D'accord, des gens qui connaissent la technologie qu'ils développent, hein, et donc il y a une espèce de fierté à construire quelque chose qui couvre toutes les bases, hein. Il y a pas un trou dans la raquette, on veut tout faire, et ce qui est pas mal, hein, je dis pas que c'est mauvais. Par contre, là où ça devient mauvais, c'est si on ne change pas de mindset lorsqu'on se dit on va maintenant aller le vendre. Donc c'est très bien de couvrir tous les éléments. Lorsqu'on développe sa plateforme, sa solution, c'est criminel de le faire lorsque l'on veut aller extraire la valeur du marché, parce que c'est pas comme ça que ça va se faire. Et là, il y a énormément de couteaux suisses. Si je prends l'environnement des startups, je dirais que le frein numéro un d'une startup technologique aujourd'hui, dans toutes celles que j'ai pu rencontrer, j'ai travaillé avec beaucoup de startups ces dernières années, le frein numéro un, c'est de penser que ce qu'ils ont construit va se vendre tout seul et qu'au plus c'est holistique, au plus c'est bout en bout, au plus c'est complet, au plus ça amène de la valeur au client. Oui. Et là, il y a un enjeu majeur pour desserrer ce frein-là, il y a vraiment un enjeu majeur de... Ben, il faut arracher le cœur du fondateur, quoi, hein, et lui faire comprendre que comme ça, il ne va pas monétiser son innovation.
Alors, dernière question, et puis on va conclure là-dessus. Pour réaliser ce triptyque et arracher le cœur du fondateur, je suppose que ça ne se passe pas comme ça. Quoi. Ça ne se passe pas au bout d'un coup de téléphone de 5 minutes. Il y a un peu de travail. Et je crois que tu mènes souvent ce genre d'atelier avec les clients que tu accompagnes.
Oui, exact. Mais c'est vraiment des ateliers de co-création. Et comme toujours, je dirais, pour insuffler le changement, il faut d'abord partir de l'existant. Il faut montrer la douleur, la douleur de l'existant. Et donc, il y a souvent un premier atelier de découverte où on découvre les ambitions, les convictions, on découvre la stratégie, on découvre les clients. Est-ce qu'on est content de ses clients, pas content? Pourquoi on est content? Pourquoi on n'est pas content? Donc, on essaie de de découvrir un peu tous les éléments qui font que le business va plus ou moins bien. Et c'est une découverte assez factuelle. Et on demande aux fondateurs ou aux cofondateurs de mettre des petits sourires plus ou moins larges ou au contraire des bananes inversées où on n'est pas content. Et donc, c'est d'essayer de sentir un peu là où ils sentent bien que le bât blesse. Et pour ensuite rentrer dans cette logique de triptyque et de construction d'intention, où en général, moi, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, bien, se sont pris le mur quelquefois en essayant de vendre le couteau suisse. Et donc, ils sont quand même réceptifs à une nouvelle approche qui pourrait leur permettre de vendre mieux et plus vite, finalement.
Est-ce qu'il n'y a quand même pas des cas où il y a des fondateurs comme ça qui n'ont pas envie de se faire arracher le cœur et qui ruent dans les brancards, qui ne veulent pas, ils refusent?
Oui, souvent, moi j'ai tendance à dire, juste avant de lui arracher le cœur, on peut peut-être arriver à une situation où on se déteste mutuellement. donc il se dit, mais qu'est-ce qui me veut? Mais ça, c'est storming before performing, si tu vois ce que je veux dire. Donc il faut jusqu'à présent, moi en tout cas, ceux avec lesquels j'ai travaillé, ils se sont dit, tiens, finalement, oui, il y a peut-être quelque chose qu'on ne fait pas bien là. En prenant évidemment des anecdotes et des exemples qui montrent que ça peut se passer mal, et quand ça se passe mal, ça peut se passer très mal.
Eh bien, maintenant, les fondateurs, notamment de sociétés technologiques innovantes, savent ce qu'il leur reste à faire, s'arracher le cœur pour mieux vendre. Merci Yves et bonne continuation.
Merci Yann.
Écoutez bien les podcasts de Sparklane sur le blog Sales and Marketing Insiders, le blog d'information sur la vente en B2B.